on va accueillir Armen Abou. Je ne sais pas comment il faut le prononcer. Comment ça se prononce?
Abouhnegor.
Il est extrêmement désagréable de présenter un écrivain dont on n'a lu qu'un texte, puisqu'on n'a pas de langue commune avec lui et qu'un seul texte a été traduit en français. Donc je voudrais que Gamal Ritani, qui a choisi de présenter cet écrivain en France, parle de lui. Il en parlera beaucoup mieux que moi. Et donc on va essayer d'opérer un petit changement de place. Ça fait assez gag des Marx Brothers. Enfin, on va essayer de redevenir un peu sérieux. Moi, je suis toujours un peu frustrée de ne pas avoir pu lire les magnifiques textes sur les femmes de Poussière de l'effacement, mais bon, il faut s'y faire. Et puis, c'est toujours agréable de découvrir un écrivain nouveau. Et je crois qu'on peut remercier Gamal Ritani d'avoir voulu le présenter aux Français, donc j'espère qu'on va le traduire. Donc, il est né en 1967 dans un village près d'Assouan. Maintenant, je crois qu'il vit près d'Assouan, que son œuvre est en effet très marquée par le désert. Donc, je vais lire juste le début d'un texte que Gamal Ritani a écrit pour le présenter. Ensuite, je voudrais qu'il explique pourquoi il a voulu le présenter au public français, pourquoi il a choisi parmi tous les écrivains d'une génération plus jeune que lui, celui-ci particulièrement. Donc, dans le texte de présentation que Gamal Ritani avait rédigé, il commençait comme ça. Armen Abouhnegor, je ne sais pas comment le prononcer, évidemment, est né en 1967 dans un village près d'Assouan où il a passé toute son enfance. Il conserve jusqu'à ce jour de fortes attaches avec ces gens des campagnes qui, de par ces histoires qu'ils lui ont narrées et les légendes qu'ils lui ont transmises, ont été pour lui une source d'inspiration décisive dans son parcours littéraire. Autre influence déterminante, les livres de son père, une bibliothèque très riche qui exerçait sur lui une magie irrésistible. Par la suite, il a acquis son bagage académique dans le domaine des mathématiques, ce qui lui a permis de mettre en équation précises ses doutes existentiels et d'élaborer ex nihilo avec toute la rigueur requise ses schémas imaginaires de romancier. Je crois qu'il est romancier, il est aussi nouvelliste et je crois qu'il est aussi dramaturge. Il a reçu un certain nombre de prix en Égypte, notamment le prix de la nouvelle pour les illusions du sublime mal. Donc, on a un texte de lui qui a été traduit en français, qui s'appelle « Fièvre du doux mal », dont Nicolas Taïeb va lire tout à l'heure un extrait seulement, parce que alors là, sinon, ça devient absolument tragique. Et ce serait bien quand même qu'on ait un tout petit peu de temps, si vous avez des questions à poser aux deux écrivains, pour vous donner la parole. Alors, allons-y.
Merci. Sénat 1993, صدرت جريدة أخبار الأدب وكانت تجربة جديدة في الصحافة المصرية وأنا يعني اللي اقترحت إصدارها وأسستها.
En 1993, j'ai fondé le journal, l'hebdomadaire en fait, أخبار الأدب, c'est-à-dire les nouvelles littéraires, qui était à l'époque une expérience nouvelle dans le paysage paysage journalistique égyptien.
كان احد اهم اهداف الجريده هو تقديم المواهب الجديده في الادب المصري.
L'une des missions principales de ce nouvel organe, c'était de présenter les nouveaux talents sur la scène littéraire égyptienne.
وايضا الادب العربي
et arabe en général.
فكان احد الوسائل التي نستخدمها اجراء المسابقات.
Et pour ce faire, nous utilisions un moyen qui était celui des concours littéraires.
اول مسابقه اجريت في اخبار الادب للقصه القصيره فاز فيها عدد من القصص من الكتاب الجدد.
Donc le premier concours de nouvelles qui a eu lieu a permis de connaître toute une nouvelle génération d'écrivains qui étaient inconnus
jusque-là.
Quand je lis un texte dont le style est nouveau, c'est un véritable bonheur pour moi.
الحقيقة في ذلك الوقت لفت نظري جدا الفائز أحمد أبو خنيجر.
Et donc l'un de ses lauréats, qui était Ahmed Abouhnegor, a particulièrement retenu mon attention.
بالمركز الأول مناصفة.
Il était premier ex-aequo dans ce concours de nouvelles.
الفائز الثاني كان سيدة.
L'autre lauréat était une lauréate.
هي كاتبة لامعة الآن اسمها أمينة زيدان.
qui est aujourd'hui une auteure reconnue, qui s'appelle Amina Zidane.
أنا عرفت أحمد نصاً أكثر ربما مما عرفته شخصاً.
Donc j'ai connu Ahmed par la suite, mais plus par ses textes que par sa personne.
هو يقيم في جنوب مصر وينتمي إلى منطقة لم تخرج منها قصص أو روايات من قبل. منطقة الصحراء ما بين أسوان والسودان.
Il appartient à une région donc située entre Assouan et le Soudan qui jusque-là n'avait pas produit de romancier majeur.
عندما قرأت نصوصه ومعظمها نشر في أخبار الأدب قبل أن يصدر في الكتب لفت نظري موهبة فريدة في القص لا تكشف عن عالم مجهول فقط ولكن بتعيد تقديم هذا العالم في شكل أدبي جديد على الأدب العربي وجديد علي أنا شخصياً.
J'ai été tout de suite frappé par son originalité, pas seulement l'originalité des personnages ou des décors qu'il décrit, mais l'originalité de la manière dont il le fait dans le style.
كان أحد أهداف جريدة أخبار الأدب أن يبقى الأدباء في مواقعهم ما يجوش القاهرة.
L'un des objectifs de Akhbar al-Adab, de ces nouvelles littéraires, c'était que les écrivains ne se joignent pas à la ruée vers le Caire, qu'on ait quand même des écrivains dans les provinces d'Égypte.
لأنه في الأجيال السابقة على أحمد كان الأديب بيجي من الريف أو من الصحراء إلى القاهرة يستقر يبدأ يحكي عن ذكريات عن القرية التي جاء منها ثم يبدأ يكتب عن وسط المدينة.
Puisque c'était s'il y avait cet exode qui était le cas jusqu'alors, les écrivains venaient au Caire, écrivaient un livre de souvenirs sur leur vie au village et après ils passaient au Caire. Donc on perdait toute une matière riche sur la vie en Haute-Égypte ou dans d'autres provinces.
ولذلك القاهرة حتى أوائل التسعينات بتحتل مساحة ضخمة جدا في الأدب المكتوب.
Et c'est pour ça que le Caire a produit quand même une très grande majorité des écrivains actuels. Du moins ça a été le cas jusqu'au début des années 90.
أحمد مازال يقيم في أسوان مع مجموعة من الكتاب المهمين.
Donc Ahmed continue jusqu'à maintenant d'habiter à Aswan, où il est en compagnie d'ailleurs d'un groupe d'autres écrivains.
أصدر أربع روايات وأربع مجموعات قصص أنا بعتبرها من أهم ما صدر في الأدب العربي خلال نقدر نقول العشرين سنة الأخيرة.
Il a publié jusqu'à maintenant 4 romans et 4 recueils de nouvelles. Que je considère comme parmi ce qui a été publié de plus important au cours des 20 dernières années.
هو بيحمل الميثولوجي والتراث الحكي الشفهي والخاص بالمنطقة بعناصره الإفريقية والعربية والعناصر المصرية القديمة المنحدرة من أزمنة بعيدة وبيقدم عالم جديد فيه الإنسان مع الحيوان مع الطبيعة الخاصة جدا.
Il s'inscrit dans la continuité d'une mythologie et d'un patrimoine qui s'est trouvé à la fois à la croisée de l'Afrique, du désert, de l'Égypte ancienne, mais il le fait en l'appliquant à un monde très nouveau dans lequel l'homme, l'animal, la nature sont tout à fait mêlés.
ولذلك يعني أنا بشكر مبادرة أصدقائنا في البلت إترانجير على الفكرة لأنها بتقدم شكل الاستمرارية في الأدب العالم وأتمنى أن تقرأوا أحمد قريبا بالفرنسية.
Donc je tiens à remercier l'initiative des Belles étrangères qui justement fait la promotion de cette continuité dans l'écriture, cette transmission. Et j'espère que vous aurez l'occasion de lire prochainement Ahmed Abouhnegal en français.
Bah déjà, on va en entendre un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il pourrait expliquer pourquoi il a choisi de rester à Assouan, ne pas venir au Caire, comme le disait Gamal Ritani? Et est-ce qu'il est obligé de faire un autre métier, ou est-ce qu'il peut simplement écrire?
طيب الأول يعني مساء الخير عليكم.
Bonsoir à tous avant tout.
ويعني أنا بشكر الأستاذ جمال غيطاني على التقديم اللي أنا ما أعتقدش أنا أستحقه. هو مبالغ في 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 كلامه.
Je remercie Gamal Ghitani pour cette présentation que je ne crois pas mériter. Je pense qu'il exagère dans ses compliments.
وبشكركم جميعا. بس بالنسبة لأسوان يعني أنا من الأول علاقتي بالقاهرة سيئة, يعني قبل ما يبقى لي علاقة بالكتابة في الأصل علاقتي بالقاهرة سيئة. يعني رحت القاهرة وأنا طفل ولما كبرت شوية واشتغلت فيها فترة, لكن لم أتصالح نفسيا معها مطلقا.
En ce qui concerne ma relation avec le Caire, il faut vous dire que ça a tout de suite très mal commencé. Avant même d'être écrivain, donc je vivais à Assouan et j'ai eu une période de ma vie où j'ai dû aller au Caire et je ne me suis pas du tout senti en harmonie avec cette ville.
وكان في أسباب يعني لداء يعني لعدم الراحة النفسية ما بيني وما بين مدينة زي القاهرة. يمكن السبب ده بعدين تحقق أكثر, يعني عندما بدأنا نقرأ وأشوف خاصة الكتاب القادمين من خارج القاهرة وذهبوا للقاهرة, زي ما كان بيقول الأستاذ جمال غيطاني إنه بعد شويتين هو بيحكي من ذاكرته وبعدين بيتحول إلى إنه يحكي عن المدينة نفسها, مدينة القاهرة نفسها, وكأنه هو جاء من فراغ أو جاء من مكان ليس له وجود.
Ce malaise s'est encore renforcé en fait par la suite avec l'écriture. Comme l'a dit Monsieur Ghitani, je voyais ces écrivains qui partaient pour la capitale et qui très vite se mettaient à écrire sur le Caire comme si en fait ils venaient de nulle part, c'est-à-dire que leur racine était complètement oubliée au bout d'un ou deux livres.
وفي التسعينات كان بدأ فكرة يعني كمان الاتصالات تبقى موجودة, الحواجز بتتكسر, يعني فكرة المركزية الموجودة في القاهرة مع بداية التسعينات بدأت تتفكك, فما عادش فيه مبرر قوي أو دافع قوي للكاتب إنه يبقى موجود بجسمه داخل مدينة القاهرة. هو ما يهم الكاتب إنه يقرأ, يجد كتاب كي يقرأه, سينما, مسرح عشان يشوف ويتفرج ويتابع, أيضا جورنان يجي لغاية مكانه ويكتب نصه ويستطيع إرساله بسهولة لأي مكان في 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 القاهرة.
En plus, avec le début des années 90, les moyens de communication et de transport étaient quand même beaucoup plus développés. Et donc, il n'y avait plus ce besoin impérieux d'être présent physiquement dans la capitale pour pouvoir écrire. De quoi a besoin l'écrivain? Il a besoin, certes, d'avoir accès aux livres, donc de trouver les livres qu'il souhaite lire, de trouver les films, les pièces de théâtre. Mais à condition d'avoir ça à sa disposition, quel besoin a-t-il d'aller émigrer lui-même dans la capitale, puisqu'il arrive à envoyer ses textes là où il le souhaite?
أنا بسمن فكرة الهدوء, فكرة الوحدة, ودي اللي بتوفرها لي أسوان, يعني بتوفرها المكان اللي أنا مقيم فيه, لأنه ما أحتاجه لكي أعمل مكان هادئ ووقت. القاهرة لا تمنح وقتا ووقت كي تتأمل العالم, كي تقرأ بروية, كي تحاور نفسك أو تجادلها مجموعة من الأصدقاء المثقفين الحميمين اللي يساعدوك بشكل ما من الأشكال, مش أكتر من كده.
Moi, j'attache un grand prix à la sérénité, au calme, à l'apaisement. Et Aswan me procure en fait ces conditions. J'ai besoin d'avoir un monologue intérieur, d'avoir une contemplation des choses. Bien sûr, pas une solitude complète, puisque j'ai un groupe d'amis avec lequel nous discutons nos idées littéraires. Mais cette vie à Aswan me convient parfaitement. Pour ce qui est du fait d'exercer une activité... Je suis professeur de maths. Parce que pour une raison très très simple, c'est que l'écriture ne nourrit pas son homme.
Est-ce que vous avez écrit aussi du théâtre ?
Oui, tout à fait.
مسرحيات وان اكت يعني
فصل دي بيس اون ان اكت
واحد في نصوص للاطفال ومسرح للكبار يعني في الاثنين
يا à la fois du théâtre pour la jeunesse et du théâtre classique
وتم تنفيذها يعني تم تنفيذها خلال الفرق الموجوده في الثقافه الجماهيريه على مستوى الجمهورية تم تنفيذ العروض دي.
Donc elles ont été jouées à travers l'Égypte dans le cadre des palais de la culture, enfin une institution égyptienne publique qui a fait jouer mes pièces partout en Égypte.
Et est-ce que vous diriez, comme Gamal Rehtani, que vous voulez vous placer dans une à la fois dans la tradition arabe et dans une certaine modernité?
يعني أنا لا تعنيني المسميات مطلقا أيا كانت حداثة غربية ما أعرفش كلاسيكية ما أعرفش أيا كان الاسم ما أريد فقط هو أن أكتب وهذه الكتابة ممكن تبقى متوافقة مع بعض الناس ممكن ما تبقاش متوافقة مع بعض الناس ممكن يحبوها بعض الناس يرفضوها أما فكرة التسمية دي في التسمية ترجع للنقاد هم اللي يسموا أنا مش معني بفكرة التسمية لكن يكفي طموح للإنسان إنه يترك جملة واحدة في تاريخ الإنسانية.
Pour moi, ce ne sont pas les dénominations vraiment qui comptent le plus. J'essaye de ne pas m'en préoccuper. Pour moi, c'est le travail des critiques. Mais ce qui compte vraiment pour moi, c'est la pulsion de l'écriture. C'est ça, mon ambition, c'est d'écrire. Et je considère que quand bien même quelqu'un ne laisserait qu'une seule phrase qui compte, il aurait réalisé cette ambition.
Je crois que Nicolas Taïeb va lire un extrait, mais je crois qu'on n'a pas le temps de lire le texte en entier, hein, c'est bien ça. Donc c'est un texte qui s'appelle Fièvre du Doumal, qui est extrait d'un recueil qui porte le même titre, Fièvre du Doumal, qui est apparu en 1998 à Assouan, et dont on peut espérer qu'il va être traduit en français, que grâce à la présence aujourd'hui d'Ahmed Abounegar ici, il va se passer quelque chose. Donc je ne sais pas, Nicolas, c'est le début que vous lisez ou c'est,
oui,
ou c'est des morceaux épars? Non, c'est un
c'est
seul.
Deux, trois pages du début.
Et voilà. Après, j'espère que vous aurez des questions. Et puis.
Impossible de rester, de résister à ce qui m'entraîne. Ce soir-là, la tunique de fièvre qui m'enveloppait était plus légère. Une force étrange s'était emparée de mon corps, le poussait à se mettre en route. L'oreiller était trempé de sueur, la nuit avait pris possession des lieux, l'été suffocant de la saison de la crue étouffait sans pitié la moindre brise qui aurait seulement songé à se lever. Mes pieds ont tâtonné sous le lit à la recherche de mes sandales et je me suis faufilé doucement, comme un somnambule, comme envoûté, laissant l'âne du sommeil couché près de mon lit m'emporter en cauchemar sur son échine épaisse. Où allons-nous ? Lui ai-je demandé. Là, devant. J'ouvre la porte. Une bouffée d'air fétide s'élance de la rue, lourde des odeurs du dehors. La nuit ensevelit dans ses plis lourds le village et ses habitants. Effrayé par ces ténèbres opaques, je me tiens, indécis, je ferme les yeux, les ouvre. Peut-être suis-je encore endormi, peut-être n'est-ce qu'un rêve étrange. Mais l'âne de la nuit continue de m'emporter. Mes yeux finissent par s'accoutumer à l'obscurité, la rue étroite, tortueuse et pleine d'immondices qui dégagent une odeur putride. Je lève les yeux vers le ciel à la recherche d'étoiles. Mais le ciel est étonnamment sombre, comme si les voiles des ténèbres l'avaient dérobé. Mon pied bute contre quelque chose de tiède. Je me penche pour le ramasser. Une colombe. Non, c'est le mâle. Je le reconnais à son bec, à la douceur de son plumage sur sa poitrine. Et je sens comme un couteau se ficher dans les tréfonds de mon cœur. Je l'embrasse, je l'emporte, progressant prudemment, veillant à ne pas glisser, et je demande à l'âne du sommeil, où est ma mère ? Là, devant ! Pourquoi il frappe ma mère, celui-là ? Ma tête bourdonne d'un reste de fièvre, ballotte de droite à gauche comme au bord d'un précipice. J'y porte les mains pour la préserver de la chute. Je trébuche sur le sol gras et sale. Ma jambe se prend dans le bas de ma tunique blanche. Je maudis la rue et tous ses habitants. Sauve-toi, Mariam. Fallait-il donc que ton grand-père soit le voisin du mien il y a si longtemps ? C'était son frère, et tu étais donc ma cousine. Voilà la porte de chez vous avec cette barre lourde et cruelle qui pèse sur ma poitrine, qui l'enserre comme si elle ne s'était jamais ouverte. La porte me fait face avec cette main de Fatma ensanglantée dont je sais malgré les ténèbres qu'elle est juste devant mon visage, comme si elle voulait me gifler. Je sens une sueur collante glisser le long de mes côtes. J'ai le cœur qui bat fort alors que je te vois sous un halo de lumière qui s'étend au-dessus de ta maison, le soir de ce jour lointain. Et mon cœur ne peut que s'écrier « Oh mon Dieu !» Une puissance formidable force mes pieds à se mouvoir. La rue vide tourne. Je regarde derrière moi, je ne vois rien et je me demande où est la montagne. Sans étonnement aucun, je vois femme, enfant, homme remplir la cour de la maison. Ma mère est couchée dans la pièce où se trouve à présent ma sœur. À côté, il y a cher Hassan avec une branche de palmier encore verte. Moi, tout petit à cette époque, je me précipite au milieu des enfants vers ma mère. Mon oncle se met en travers de ma course, me cueille au passage. J'essaie de m'échapper, mais sa grande main me calme. Mon père est prosterné à genoux, la tête entourée d'un large turban entre ses mains posées à plat sur le sol, si bien que je ne vois pas son visage. Je regarde ma mère, amas de tissu noir jeté sur la natte à même le sol, rude tige de roseau desséchée par le vent d'hiver un jour de froid glacial. Son visage, jaune comme le safran, repose sur cet oreiller avec lequel je dors maintenant. Ses yeux sont tournés vers moi dans un regard qui ne m'a plus jamais quitté. Un silence angoissant règne sur le village dont je parcours les ruelles. Pas un mouvement, pas une âme, un sommeil mortel. Je m'étonne moi-même de voir que mes pieds connaissent le chemin, comme la dernière fois, quand les enfants me pourchassaient en criant « Oh, le fils de celle qui est prise par les démons ! Oh !» Je me tâte le front, la fièvre a baissé, mais je commence à frissonner. Avant même que j'aie le temps de lui poser la question, l'âne du sommeil me répond « Devant !» La montagne me siffle au visage un souffle d'air brûlant. Je vois les gosses qui hurlent. Il y a la fille de cher Hassan aussi, la demeurée. Ils me poursuivent, j'ai la tête qui tourne, je cours, personne ne les chasse. J'ai des sanglots plein la poitrine et pourtant mes yeux restent secs. Je trébuche dans la ruelle, je sens qu'ils vont m'attraper. Je pousse la porte de la maison, j'entre et claque le bâton derrière moi. Je pousse la barre en travers de l'entrée, je m'appuie et je laisse mes yeux se rassasier de larmes qui ne veulent pas couler. Les hurlements des gamins me percent comme autant de lames et je demande à l'âne de la nuit « Est-ce la maison de ma mère ?»« Oui, » me répond-il. Un coup d'œil me fait reconnaître la maison de mon grand-père maternel. Une brise rebelle a échappé aux griffes de l'été étouffant. Elle soulève la poussière qui me monte au visage. Je vois mon grand-père qui nous réunit, nous, ses petits-fils, autour de lui, à côté de la réserve. « Il y a une nuit dans l'année, » raconte mon grand-père, « Le fleuve s'endort. L'eau est tellement calme qu'on peut voir le fond, plat comme tout. Il n'y a pas de remous, pas un clapotis. Celui qui a la chance d'être là à ce moment-là, de boire l'eau du Nil, de s'y baigner avant que le fleuve ne se réveille, il sera heureux toute sa vie, et il le sera si fort que personne ne pourra lui résister. Ou alors il se marie avec la sirène qui sort de l'eau cette nuit-là. Elle l'emmène là où personne n'est jamais allé, là où il n'y a pas de danger. Ensuite, il me raconte l'histoire d'Abu Dira, si fort qu'il pouvait ébranler les montagnes, si fort qu'il avait emporté un palmier coincé sous son bras depuis les champs jusque chez lui. Mais toute sa force s'envolait s'il voulait faire du mal, s'il mentait. Moi qui suis toujours dans ses jambes, je lui pose des questions sur la sirène. Il reste silencieux un bon moment, se met à me parler de son fils, mon oncle Hussein, qu'une sirène avait épousé, raconte comment elle était belle. Je m'imagine moi aussi doté d'une telle force. Les gamins du quartier ont peur de moi et Mariam est ma fiancée. J'ai pleuré. Une vague d'air froid m'a enveloppé, dissipant l'odeur stagnant autour de moi. J'ai bougé les jambes, me suis mis debout et me suis mis à parcourir la maison en ruine, les différentes pièces avec les banquettes en tiges de palmier à moitié défoncées, la réserve, le four, le colombier, tandis que me reviennent à l'esprit des images de mon oncle, de Mariam, de ma mère, de mon grand-père. J'ai ouvert la porte et je suis sortie.